Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau éclairage. Alors, bonne nouvelle, il semble que la crise économique soit derrière nous, ou en tout cas, quelques signes commencent à montrer que nous sommes dans une période de sortie de crise. Mais, mauvaise nouvelle, il semble que le monde retrouve le modèle économique qui était le sien précédemment et que donc, avec la reprise économique, revient un excès de demande d'énergie fossile. Alors, nous allons aujourd'hui légitimement nous interroger sur l'éventualité d'un retour d'un choc pétrolier, le quatrième. Et nous allons le faire avec mon invité, qui est donc Pierre Sabatier. Pierre Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver sur cette antenne. Je sais que vous êtes très, très occupé. Alors, vous êtes ingénieur agronome. Vous êtes co-dirigeant du cabinet indépendant de recherche économique et fondateur PrimeView. Ceci avec votre collègue Jean-Luc Buchalet. Et vous êtes tous les deux ingénieurs agronomes.
Absolument. D'accord. Oui.
Et membre de la célèbre association des ingénieurs agronomes présidée par le président Courtois.
Absolument. Oui.
C'est une très bonne chose. Je vais peut-être vous demander en quelques minutes de donner un complément de présentation sur votre parcours et peut-être nous dire un peu plus ce qu'est ce cabinet indépendant de recherche. Alors, ce que je peux moi dire avant de vous passer la parole, c'est qu'effectivement, votre cabinet s'est affirmé au fil des années comme étant une référence en matière de recherche économique, mais quelques mots complémentaires de présentation de vous et de votre cabinet.
Merci. Donc, PrimeView, c'est un cabinet de recherche indépendant et c'est une des forces de ce cabinet, c'est qu'on a voulu se démarquer des autres, puisque beaucoup de cabinets de recherche sur la thématique économique ou financière sont souvent adossés à des maisons de gestion ou des maisons de courtage. Et on a voulu affirmer notre indépendance pour éviter d'avoir des problématiques de juger parti. Et donc, on travaille seul, entre guillemets, c'est-à-dire on n'a pas de compte à rendre à des structures qui pourraient altérer en fait notre jugement dans un premier temps. Et notre deuxième caractéristique, c'est qu'on essaye toujours de se détacher de ce qu'on va appeler le momentum, c'est-à-dire que de l'opinion générale qui peut se produire et qui caractérise une époque, pour essayer d'avoir et de toujours donner des opinions qui soient de moyen et long terme, pour essayer de dépasser le simple mouvement qui se poursuit, essayer de déterminer les mouvements à venir sur plus longue période.
D'accord. Donc vous vous défendez d'être de simples suiveurs du consensus.
Absolument. Voilà. Nous connaissons bien le consensus et justement nous connaissons également ses défauts.
Voilà. Alors vous venez de produire une note qui était extrêmement, comment dirais-je, décoiffante, dont le titre était « Vers un quatrième choc pétrolier d'ici 2012 ». Donc, on est en plein dans le sujet. Alors, on rentre immédiatement dans ce sujet. Qu'est-ce qui vous fait penser que, d'ores et déjà, au moment où on avait oublié les phénomènes de tension sur l'énergie fossile, que vous déjà, parce que 2012, c'est demain.
Absolument. Alors, la vraie problématique, et si on veut apporter une réponse à cette question, y aura-t-il un nouveau choc pétrolier ? Et au-delà, est-ce que nous nous dirigeons vers un monde dans lequel les prix de l'énergie seront définitivement plus élevés que ceux d'hier ou d'aujourd'hui ? Il faut s'interroger d'abord et déterminer quels sont les paramètres qui font le prix et qui constitue ce prix-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent les paramètres qui peuvent être conjoncturels, ponctuels, des paramètres qui sont plus structurels, je dirais. Alors, ces paramètres ponctuels peuvent faire varier le prix, les prix du pétrole et des énergies fossiles dans leur ensemble de manière très importante sur courte période, mais ne déterminent jamais leur évolution. Alors, je pense d'abord au phénomène qu'on a beaucoup entendu de la spéculation. Donc, la spéculation, un petit point d'éclairage, c'est avant tout, je dirais, un accentuateur de tendance plus que quelque chose qui va déterminer une tendance. Donc, de la même manière que lors de l'année 2008, et jusqu'à juillet dernier, donc les prix du pétrole ont atteint un sommet proche de 150 $. Il est clair que ces 150 $-là sont atteints grâce en partie à la spéculation. Mais la spéculation ne détermine pas la hausse qui était sous-jacente à l'augmentation des prix du pétrole.
On estimait que c'était quelques dizaines d'euros qui représentaient entre 30 et 40 euros qui était intégrée dans cette évolution, on va dire, des prix. Quoi.
Absolument. Et d'ailleurs, on l'a constaté à l'inverse lors des reflux très violents du prix du pétrole qui sont passés, je le rappelle, de près de $150 en juillet 2008 à, en fin d'année dernière et début d'année 2009, à moins de $35. Donc un véritable effondrement qui a aussi été exacerbé par les phénomènes de spéculation, puisque les spéculateurs se sont détournés et au contraire ont joué la baisse du prix du pétrole. Mais rappelons-le, la spéculation ne constitue pas un facteur structurel de hausse ou de baisse des prix du pétrole.
Alors, est la tendance lourde alors ?
Alors la tendance lourde, donc à horizon 2012, elle est claire pour nous, elle est haussière sur les prix du pétrole, pour deux raisons. Dans un premier temps, il faut savoir que les prix du pétrole sont cotés et échangés en dollars. Donc, et c'est souvent une chose relativement méconnue. Donc, il faut, si on veut émettre un avis sur les prix du pétrole à terme, à horizon moyen-long terme, il faut également se positionner sur l'évolution du dollar, donc qui est la monnaie de référence dans le monde. Or, aujourd'hui, vis-à-vis du dollar, notre position, elle est clairement baissière sur le moyen-long terme. C'est-à-dire que plus le dollar baissera par rapport aux autres monnaies, plus les prix du pétrole auront tendance à monter structurellement. Et d'ailleurs, pour confirmer cette relation qui existe entre les deux phénomènes, on va parler chiffres. On a une corrélation sur les 5 dernières années qui atteint près de 90%.
Alors ça veut dire quoi ?
Ça veut dire clairement que lorsque le dollar baisse, les prix du pétrole montent. Lorsque le dollar monte, les prix du pétrole baissent. Donc une des questions également à se poser, c'est quel sera le mouvement futur des prix du dollar. Pour justifier d'une hausse ou d'une baisse du prix du pétrole. Alors, à cela, notre position, c'est qu'aujourd'hui, si on a une amélioration conjoncturelle aujourd'hui de la situation économique mondiale et notamment aux États-Unis, elle n'est pour nous que conjoncturelle et pas structurelle. Nous ne sommes pas, selon nous, repartis sur un cycle fondamental de croissance, on va dire, forte et durable.
Vous tablez sur quel chiffre, vous, en moyenne, sur le plan mondial ?
Alors, sur le plan mondial, pour 2010, on table sur du plus 2%, après un recul de moins 1,5% en 2009, ce qui est inédit, je le rappelle, depuis l'après-guerre, jamais l'économie mondiale n'avait reculé. Jamais le PIB mondial n'avait reculé, y compris dans les années 75, puisqu'on avait atteint à peu près un chiffre de 0% en parité de pouvoir d'achat. Donc, c'est vraiment, la chute est inédite. D'ailleurs, un éclairage sur ce point, il faut savoir que les échanges commerciaux, là aussi, leur effondrement est complètement inédit, puisqu'ils sont chutés en seulement deux trimestres de 16%. Donc rendez-vous compte à quel point dans un monde aussi ouvert que le nôtre, que ce soit en termes de mouvement de capitaux ou humains, une chute aussi rapide de 16% du commerce mondial, vous comprenez pourquoi crise dans laquelle nous avons foncé.
Tout à fait, mais en sens inverse, on commence à sentir des indicateurs avancés, notamment au niveau du fret, etc., montrent que le commerce mondial est en train, enfin en tout cas donne des signes, parce qu'il faut encore rester très 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 prudent, mais semble donner des signes justement de reprise à travers le commerce mondial.
Absolument, hein ? Et cela va continuer dans les mois à venir.
C'est ça.
Donc, et là est toute la difficulté de la situation dans laquelle on se trouve. La plupart des récessions qu'on a connues depuis l'après-guerre ont toutes eu un profil de ce qu'on appelle un profil en V, c'est-à-dire une correction relativement rapide, puis une reprise également aussi rapide, je dirais. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on est dans un profil de récession classique, donc profil en V, ou un profil de récession qui serait ce qu'on appelle un profil en W, voilà, ou en L, mais nous on privilégie plutôt, ou en U, mais on privilégie nous plutôt le W, c'est-à-dire une correction rapide et violente liée, on le sait, à un excès d'endettement des agents privés notamment, puisque en gros le cycle de croissance débuté au début des années 80, et puis ce qui s'est renforcé au cours des années 90 a été porté par l'augmentation de l'endettement des ménages, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays comme en Espagne ou au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, on constate que ce sont ces pays-là qui ont le plus souffert donc, de la correction de cette année. Qui a débuté l'année dernière. Par contre, donc, ce qui pour nous caractérise cette récession, c'est que dans un premier temps, on va avoir retour de la croissance. On a déjà constaté les choses au cours du second trimestre et ça va se confirmer au cours du troisième et quatrième trimestre. Donc pourquoi ? Parce que simplement, on n'a jamais vu également une telle réponse de l'ensemble des gouvernements dans le monde. C'est-à-dire que la politique monétaire mondiale est extrêmement expansionniste, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de l'argent aussi facile, entre guillemets, hein, donc il est très facile, puisqu'avec des taux directeurs aussi bas, il est très facile aujourd'hui d'obtenir de l'argent si on a envie de l'investir. Et dans un deuxième temps, on n'a jamais vu autant des plans de relance d'une telle ampleur. C'est-à-dire, je vous le rappelle, ça fait près de 6% du PIB mondial qui seront injectés entre 2009 et 2010.
Ce qui est absolument colossal. Hein,
colossal. Donc, bien entendu, ceci va avoir un effet sur la croissance mondiale et sur la croissance des grandes zones économiques que sont les États-Unis, l'Europe ou encore la Chine. Mais la question, c'est est-ce que ce renouveau, cette nouvelle croissance sera durable et donc va permettre de redébuter un cycle comme on l'a connu au milieu des années 90. À cette question-là, on répond clairement non, parce que l'effort de désendettement des agents privés ne s'est pas encore fait. C'est-à-dire que les ménages américains, les ménages anglais, les ménages espagnols restent très endettés. On subit une forte perte en termes de patrimoine qui va perdurer, puisque notamment la correction en termes immobiliers a sans doute...
Donc c'est un effet richesse négatif. Quand
un effet richesse négatif qui va continuer d'être négatif. Alors je vous rappelle aussi que le renouveau actuel provient d'une conjonction de phénomènes qui ont été extrêmement positifs dans tous les sens, c'est-à-dire plan de sauvetage et plan de relance. Donc on injecte avec des crédits d'impôt donc, qui viennent soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Je vous rappelle également que la baisse très violente des prix des matières premières a permis également de gagner en pouvoir d'achat vis-à-vis des ménages. Donc tout ceci a contribué à limiter le recul de la consommation. Sauf que après avoir explosé les endettements publics partout dans le monde, avec des matières premières comme on va le développer, qui vont sans doute réatteindre ou au moins se maintenir au niveau actuel, donc c'est-à-dire bien plus élevé que les 35 dollars le baril de pétrole qu'on pouvait avoir au mois de février ou mars, tous ces facteurs conjoncturels positifs pour les ménages vont disparaître. Et c'est pour cela qu'on n'anticipe pas de véritable renouveau. Et pour nous, on est plus sur un cycle en W, où la reprise va être présente au cours du second semestre, peut-être au début de 2010, mais on subira une rechute sans doute dans le courant de l'année 2010.
D'accord, donc ce n'est pas forcément la violence de la reprise économique qui est susceptible d'entraîner, de conduire le monde vers un nouveau choc pétrolier.
Absolument.
Donc ce sont d'autres facteurs, et notamment, si j'ai bien lu votre note, c'est le fait qu'on commence à se rapprocher du pic de production.
Absolument.
Et que donc on rentre dans des équilibres qui sont beaucoup plus fragiles et précaires.
Exactement.
Donc comme offre-demande, bien entendu.
Exactement. Comme dans toute chose, le prix reflète de manière plus ou moins exacte le rapport entre l'offre et la demande. Alors, un petit point sur la demande. Donc, oui. Tant qu'on sera en situation de récession, c'est ce qu'on a connu, hein, on est passé, je vous rappelle, d'une consommation mondiale autour de 88 millions de barils par jour en début d'année 2008 à 82 millions de barils par jour au début de l'année 2009. Donc, bien entendu, cette chute très forte de la demande s'est traduite par la baisse des prix. Mais derrière, elle est essentiellement conjoncturelle. Pourquoi ? Parce que nos modèles économiques, dans un premier temps, ont été construits depuis le début des années 80 avec un postulat de base qui était une énergie quasi gratuite et en consommation infinie. Potentiel de consommation infini.
Parce que ça me fait penser, je vous coupe deux secondes, simplement, justement, en francs constants, même au niveau de prix, je crois, d'aujourd'hui, finalement, la hausse du coût du pétrole est quasiment négative par rapport au prix qu'il était il y a 15 ans ou 20 ans.
Absolument. Ah,
c'est ça. En fait,
absolument. Ouais, donc, lors du précédent choc pétrolier, donc de 79-80, les prix, alors on va les prendre en dollars, hein, puisqu'on exprime souvent le prix du pétrole en dollars, avaient dépassé les 100 dollars le baril, déjà à l'époque.
Hein.
Donc, aujourd'hui, entre 70 et 75 dollars le baril, on peut dire qu'on est encore 25%
en dessous du
prix de l'époque. Hein. Même si après, ce qui a caractériser les années ultérieures au deuxième choc pétrolier ont été un prix du pétrole écrasé, c'est-à-dire qui tournait entre 10 et 20 dollars le prix du baril, de 85 à 2002, c'est-à-dire une éternité
extrêmement long.
Hein. Extrêmement long, qui a eu l'inconvénient de permettre la construction de modèles économiques et qui se sont basés sur un prix de l'énergie extrêmement faible. Or, ceci est valable lorsque l'énergie, et notamment la matière première fossile, qui est le pétrole,
est infinie.
Dont la production serait infinie. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est là où on s'intéresse donc, du côté de la production, où on a consulté beaucoup de géologues. Et donc, il y a des associations qui sont extrêmement avancées, notamment aux États-Unis, sur ce sujet-là. Et clairement, que ce soit les majors pétrolières, Total, BP, etc., ou les géologues, on va dire, estiment le pic de production, c'est-à-dire que le moment à partir duquel on ne pourra plus augmenter le débit de production, c'est-à-dire les 87, 88, 90, voire 95 millions de barils par jour. On ne pourra pas aller au-delà. Aujourd'hui, c'est scientifiquement
démontré.
Et donc, ce moment-là est daté autour de 2015, avec bien sûr une marge d'erreur qui viendra de la puissance de la reprise économique ou de la puissance de la récession si elle perdure.
Oui, mais en fait, déjà, on la voit.
Mais voilà. Et donc, la marge d'erreur, elle est de quelques années.
D'accord.
C'est-à-dire que, grosso modo, on atteindra le pic de production entre 2013,
ouais,
2015 et 2017, 2020. Et d'ailleurs, Total ou BP, alors bien entendu, ont des estimations qui sont un petit peu plus ultérieures, mais qui ne sont pas très éloignées. C'est-à-dire Total estime le pic de production autour de 2020. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un phénomène classique de rapport où l'offre ne peut plus être augmentée face à une demande qui structurellement ne peut qu'augmenter à partir du moment où la pression démographique est là, c'est-à-dire que vous avez au fur et à mesure du temps plus de personnes à nourrir, donc plus de besoins de production et donc une consommation potentielle de pétrole qui ne peut qu'augmenter dans ce phénomène-ci. Et si l'offre est bloquée à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on pourra continuer de produire du pétrole, mais pas suffisamment pour répondre complètement à l'offre. Et là, on connaît la courbe des prix, c'est-à-dire que c'est une courbe exponentielle. À partir de là, il faudra sans doute réfléchir à une construction de modèle économique qui soit différente, en tout cas très différente de ce qu'on a pu connaître depuis le début des années 90 jusqu'on va dire 2007. Et bon.
Donc il faut commencer à penser à un autre modèle économique. Eh bien, nous allons voir ça dans une deuxième partie. Et nous sommes, je vous le rappelle, avec Pierre Sabatier.
Percer le secret des chevaliers teutoniques, ordre hospitalier du XIIe siècle, dans l'émission Un jour dans l'histoire. Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Alors, nous reprenons notre entretien avec Pierre Sabatier sur les perspectives en matière d'énergie et sur la crainte d'un quatrième choc pétrolier. Donc, on a vu les causes objectives dans le diagnostic qui étaient susceptibles de pousser à nouveau les prix, etc., vers le haut. On va essayer maintenant de voir dans cette dernière partie quels sont en définitive les risques de tension, c'est-à-dire là on sort du champ étroit économique pour voir au niveau géopolitique ce qui peut avoir comme conséquence. Et puis deuxièmement, évidemment, les solutions alternatives s'il y en a. Premièrement sur les tensions, alors vous écrivez, j'ai bien aimé cette phrase, quel sera le rôle de la Chine qui d'une part adopte une politique d'approvisionnement guerrière et renforce sa marine de guerre pour sécuriser l'accès à la mer de Chine et par ailleurs maintient un rythme effréné d'évolution de sa demande, 85% en 6 ans. Enfin, c'est moi qui fais la synthèse, mais enfin, c'est ce que vous avez dit. Donc, vous allez jusqu'à penser qu'on va rentrer dans des tensions extrêmement sérieuses. Enfin, il y a déjà des premiers signes, effectivement, avec Rio Tinto, etc.
Exactement. Alors, pour nous, clairement, le nouvel ordre économique mondial à venir, puisqu'il ne sera pas le même qu'au cours du dernier cycle, hein, qui est ce long cycle débuté pour nous à partir du début des années 80, l'arrivée de Reagan, Thatcher au pouvoir, et qui s'est conclu, on dira, en 2007. Donc, le nouvel ordre économique sera façonné par le pétrole, qui sera vraiment la pierre angulaire, et l'accès au-delà, l'accès à l'énergie, donc qui devrait être une pierre angulaire et devrait permettre de redessiner un petit peu le paysage géopolitique du monde. Alors, une première question, la Chine. La Chine a été un des piliers du dernier cycle, hein, on le sait, on l'a suffisamment entendu, via les délocalisations qui ont permis, il ne faut d'ailleurs pas le sous-estimer, un gain de pouvoir d'achat pour l'ensemble des Occidentaux, européens comme américains. Donc tout le monde a profité à l'émergence de la Chine dans le commerce mondial.
De la même façon que tout le monde a profité du consommateur américain aussi.
Absolument, de la hausse de son endettement. Exactement.
Voilà, on l'oublie un peu.
Exactement. Donc, sauf qu'aujourd'hui, les populations se rendent compte qu'il y a, on va dire, en fait, ce gain de pouvoir d'achat qui venait de l'importation, de la déflation chinoise, puisque les Chinois, eux, peuvent se permettre de produire à bas prix, donc a un inconvénient qui est celui qu'une fois que vous avez délocalisé, vous n'avez plus de gain de pouvoir d'achat, mais vous avez aussi une moindre activité sur place. Donc, d'où les tensions qu'on constate aujourd'hui. Mais derrière, la vraie question à se poser, c'est est-ce que le monde pourra se permettre le luxe d'importer des produits qui sont fabriqués à des milliers de kilomètres, donc dans un monde recomposé, et surtout, il faudra faire avec des prix d'énergie qui seront bien plus importants. C'est-à-dire que le coût du transport, qui aujourd'hui a été négligeable et est négligeable, de fait, depuis 25 ans, a permis de construire des modèles où l'échange de biens, cette fois, hein, et non de service, mais l'échange de biens est infini et donc les délocalisations sont permises jusque, je dirais...
Jusqu'au sommet de l'optimum.
Voilà, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus délocaliser, c'est parce qu'il n'y a plus rien à délocaliser. Voilà. Sauf que les prix du pétrole et les prix de l'énergie, donc le coût du transport étant amené à augmenter de manière définitive, je dirais, donc on peut s'attendre à de véritables tensions, puisque... Est-ce que la Chine, demain, qui a un modèle économique complètement tourné vers l'extérieur, je vais donner quelques chiffres parce que c'est très éclairant et on le sous-estime souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien voir que la situation de la Chine, c'est un pays qui dépend exclusivement de ses exportations, qui représentent 46% de leur PIB. A contrario, les exportations aux États-Unis représentent grosso modo 18%.
C'est ça, donc la moitié en gros.
Voilà, même plus de la moitié. Ouais. Les investissements en Chine, c'est-à-dire les investissements directs, qui dépendent également des délocalisations, donc qui correspondent en gros, c'est de l'investissement en unité de production. Donc souvent réalisé d'ailleurs par des Occidentaux, pèsent 42% du PIB. Jamais dans l'histoire, quelles que soient les zones économiques concernées, on a vu un tel niveau d'investissement dans un pays. C'est-à-dire qu'il est complètement tourné dans une optique de production puis exportation. Parce qu'on pourrait éventuellement croire que la Chine ait la capacité de s'auto-alimenter, d'auto-alimenter sa croissance, sauf qu'il manque un pilier fondamental, c'est la consommation. La consommation des ménages chinois représente à peu près 38% du PIB, 38% de la richesse nationale, contre 72% aux États-Unis. Et si on considère que les États-Unis sont des ultra-consommateurs, l'ensemble des pays de l'OCDE, la consommation représente un peu plus de 62% du PIB.
Cela étant, le gouvernement chinois prend des dispositions pour relancer sa demande intérieure, semble-t-il, dans des proportions d'ailleurs gigantesques et qui font d'ailleurs peut-être s'inquiéter, on va dire, les observateurs financiers et notamment le niveau d'endettement des banques, des ménages, etc.
Enfin, Exactement. Alors, la Chine, de toute façon, est un sujet infini.
Sur lequel on reviendra dans une prochaine émission.
Exactement. Alors, pour répondre quand même à la question, il est vrai que le gouvernement chinois a mis en place un plan de relance qui, là aussi, dépasse l'entendement, c'est-à-dire qui représente quasi 15% du PIB. Donc, c'est
comment on est dans la demesure totale sur tous les plans.
La demesure totale. Plan de relance, soit dit en passant, qui, attention, parce que les Chinois aussi beaucoup appris à parler l'occidental, c'est-à-dire à dire des choses et à faire des choses aussi pour être bien perçus par la communauté, en tout cas mieux perçus qu'ils ne pourraient l'être. Donc, dans un premier temps, c'est un plan de relance qui est tourné essentiellement vers l'investissement, ce qui peut paraître surprenant dans une économie mondiale qui souffre déjà d'un excès d'offres. Donc, dans un premier temps, il est sûr que construire ces usines-là et construire ces unités de production vont apporter de la croissance, puisque ça va employer des gens et donc on va consommer finalement
ensuite,
l'argent public.
L'outil fera quoi ?
Mais voilà, donc ça pourrait d'ailleurs être un risque, une déflation plus à l'échelle mondiale cette fois, s'installe. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer, puisqu'aujourd'hui, l'utilisation des capacités de production aux États-Unis, c'est moins de 70%, contre une moyenne historique au-delà de 80%. En Europe, idem. Et en Chine, presque pareil.
Donc il y a des réserves de capacités de production qui sont énormes et qui sont alimentées par ailleurs par les politiques d'investissement chinoises.
On est déjà dans une situation d'excès d'offres et donc on investit encore pour augmenter ces capacités d'offres. Donc bon, la justification économique, elle peut paraître un petit peu particulière. Alors ça, c'est le premier point. Et grosso modo, la part du plan de relance qui est destinée au soutien de la demande des ménages, elle est entre 10 et 15% seulement. Hein, donc elle est déjà limitée. Donc on comprend bien qu'on est toujours dans cette conception de la croissance économique poussée par la production, donc par les exportations. Or, on doute un petit peu sur ce postulat. La deuxième chose qui est importante à savoir pour la Chine, c'est que la distribution de crédit a littéralement explosé au cours du premier semestre, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Alors ça nous inquiète beaucoup. C'est-à-dire que le gouvernement chinois avait donné un objectif de distribution de crédit autour de 5 000 milliards de yuan.
Aujourd'hui, ce qui fait en dollars
fait un peu plus de 800 milliards de dollars. Aujourd'hui, on en est à plus de 1100 milliards de dollars distribués, alors qu'on est d'ailleurs, c'est les chiffres de juillet. Hein, donc, en juillet, on était déjà à 1100 milliards de dollars. Alors, cette course effrénée à la distribution de crédit, bien entendu, porte ses fruits. Mais porte ses fruits moins pour le consommateur que pour le spéculateur. Et donc, d'ailleurs, la distribution de crédit et les crédits qui ont été distribués ont été notamment utilisés pour spéculer en bourse. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les indices boursiers chinois reprendre plus de 100% en très peu de temps, en quelques mois. Et donc cette hausse n'est pas une hausse qui repose sur un mieux, je dirais, économique, mais plus sur...
une forme de spéculation.
Exactement, de l'accès à l'argent. Ouais. Donc, et en gros, les banques ont donné l'argent à des entreprises pour reconstituer leur trésorerie, ce qui n'est pas positif, et à d'autres personnes également pour spéculer. Donc, vous comprenez bien que, bon, la question chinoise, on est un petit peu...
Réservé et prudent.
Réservé. Par rapport, cette fois, à leur comportement vis-à-vis de l'énergie. Donc, il est le même que, leur comportement vis-à-vis de l'économie en général et ce qu'ils ont adopté à partir du moment où ils sont rentrés dans l'OMC. C'est-à-dire qu'une vision plutôt guerrière. C'est-à-dire que des partenariats, donc avec des producteurs immédiatement, la consolidation de leur flotte marine pour protéger leur accès, puisqu'ils savent et ils connaissent leur vulnérabilité, puisque la Chine n'est pas exportateur de pétrole. Voilà, donc cette vision-là, elle peut devenir un vrai risque, surtout qu'on peut constater dans les années à venir, si on n'a véritablement pas de retour d'un cycle de croissance lié à la consommation des ménages, si on n'a pas réaugmentation de la consommation des ménages, on peut très bien... En même temps, hausse des prix, hausse du coût du transport, grosso modo, on peut voir des phénomènes de relocalisation.
Alors oui, est-ce que justement, ce qui va s'offrir comme choix aux Chinois, c'est soit d'un partenariat avec l'Amérique, donc la Chine-Amérique, soit d'un partenariat, on va dire, pacifique, au sens de la mer, bon, ou de l'océan, en se rapprochant du Japon, car c'est aussi c'est une des branches du scénario. Enfin, bon, on va dire que nous avons là, sur ces aspects géopolitiques, un sujet de notre émission. Ce que je voudrais qu'on voit dans cette dernière partie, car le temps a déjà tourné, c'est quels sont, selon vous, la pertinence des alternatives qui puissent s'offrir pour éviter ce fameux choc, quatrième choc pétrolier. Et notamment, vous faites un développement assez précis sur la biomasse. Alors ça, on retrouve vos racines d'ingénieur agronome, mais en quelques mots, quid des alternatives ?
Alors, on s'est intéressé, il est vrai, aux alternatives, puisque pour nous, il est une évidence que demain, les prix du pétrole ne pourront qu'augmenter. Alors, par rapport à la biomasse, on est un peu gêné, parce que c'est une alternative. Clairement, c'est une alternative technologique.
Alors la biomasse, c'est quoi, on peut le dire.
La biomasse, c'est la transformation en fait de la production agricole en carburant.
C'est ça.
Donc, c'est une alternative technologique. Seulement, il va très très vite se poser le problème, en gros, du conflit entre les productions agricoles à des fins alimentaires et des fins énergétiques. Et là encore, on retombe dans les problèmes géopolitiques.
Et peut-être aussi des problèmes, on va dire, d'optimisation économique, parce que rien ne dit que l'utilisation des produits agricoles pour l'énergie soit, en tout cas sur le long terme, quelque chose de très pertinent.
Enfin, bon, Exactement. Et là, ça pose aussi également un problème social et un problème humain. C'est-à-dire que dans un monde dans lequel la pression démographique ne cesse d'augmenter, où... un monde qui a faim, où la malnutrition ne cesse également d'augmenter, se poser la question de construire des productions agricoles à des fins énergétiques, ça pose un problème. Et ça pose d'autant plus un problème que des gens seraient prêts à payer très cher les productions agricoles. Donc à la fois en termes de volume, je dirais, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment à manger pour nourrir tout le monde.
En termes de valeur.
Et en termes de valeur, c'est-à-dire que les gens qui seraient prêts donc, à acheter des productions agricoles pour les transformer en énergie et en carburant sont ceux qui ont de l'argent. C'est-à-dire sans nos pays occidentaux, qui ne souffrent déjà pas de faim et qui ne souffriront pas de faim.
Vous déplacez sur le terrain éthique, effectivement.
Absolument. Donc
il faut garder en filigrane.
Un véritable problème. Donc, ça sera une alternative ponctuelle, mais ça ne peut pas être considéré comme une alternative crédible sur le long
durable.
Terme.
Alors, les autres alternatives ?
Alors, les autres, on passera forcément par une réduction, sans doute, des échanges de biens mondiaux. Donc, les transports aériens sont des modes de transport qui sont destinés, malheureusement, sont des business models qui sont destinés à se réduire et à se limiter notamment à des transports de longue distance.
C'est-à-dire que... Donc, vous dites qu'il y aurait des délocalisations moins fortes que précédemment.
Absolument.
Enfin, en tout cas, en tendance. Hein. Bon, ça ne va pas se faire le lendemain. Malheureusement, il y a encore des usines qui vont se fermer prochainement, dans les mois qui viennent.
Oui.
Cela étant la tendance, c'est un certain retournement parce qu'on a été là où il ne fallait pas aller.
Hein. Exactement. Alors, juste pour conclure et un petit point de précision, ce qui est étonnant et ce qui nous surprend systématiquement, c'est que si vous n'avez pas quelque chose qui vient casser un modèle, il va jusqu'au bout
de sa logique.
Et encore une fois, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des signes de stabilisation de l'économie et immédiatement, qu'est-ce qu'il se passe ? On reprend
et on pérennise.
Et le modèle qui existait auparavant de la crise donc, revient tel qu'il était. Et donc, rien n'est remis en question. Et le moment où, en gros, le modèle s'arrête, c'est lorsqu'il a été au bout sa logique. Et le bout de sa logique, sans doute, et le mur qu'il y a au bout de cette logique-là, c'est les prix de l'énergie.
D'accord.
Et ce sont les prix de l'énergie qui forceront, je dirais, le monde à redéfinir des modèles de croissance qui soient différents.
D'accord.
Sans doute avec moindre des occasions qui seront moindres, avec des échanges qui seront plus régulés, etc.
Donc le pire pourrait se transformer en opportunité pour forcer à retrouver un modèle économique plus intelligent, en tout cas pour la collectivité mondiale. Donc je terminerai sur ce point. En vous citant, le monde devrait vivre au rythme des fluctuations du prix du pétrole au cours des prochaines années. Ça, c'est votre certitude. Ce qui nous renvoie à ce que notre ami Alain Gras, professeur à la Sorbonne et grand auteur, qui a été reconnu par le prix Turgot dans sa parution « La fragilité de la puissance », paru chez Fayard, ce que Alain Gras reprenait sous cette expression « Le progressisme technologique est devenu la figure centrale du nihilisme contemporain. » C'est la même chose sous la forme littérale.
Absolument.
D'accord. Merci à vous, Pierre Sabatier. Donc on se retrouvera. Bravo à PrimeView, votre cabinet indépendant de recherche économique. Et merci pour cet éclairage et rendez-vous dans une prochaine émission.
Merci à vous.